Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce lundi 7 décembre, un coup de gel cette saison, mais celui-là est inédit. Les assureurs ont accepté un gel de leurs primes l'an prochain pour les secteurs les plus touchés par la pandémie, notamment l'hôtellerie-restauration. Sera-t-on déconfit à Noël? Les derniers chiffres de l'épidémie stagnent avec plus de 11 000 contaminations dans les dernières 24 heures. Il faudrait être à 5 000 pour être déconfiné la semaine prochaine. Dans RTL Midi aussi, le début du réquisitoire au procès des attentats de janvier 2015 et ce constat terrible fait par l'avocate générale. Chacun part le matin désormais sans savoir s'il rentrera le soir. Et puis nous vous parlerons d'un arrêté municipal sur mesure pour le Père Noël à Pleumeur dans le Morbihan. Le mois de novembre aura été le plus chaud jamais enregistré sur la planète. Bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Parlons de météo, si ça continue comme ça, le mois de décembre ne le sera pas.
Exactement, c'est pas du tout la même ambiance, ambiance hivernale aujourd'hui. Bon, c'est un peu normal, on revient tout simplement à la situation qu'on devrait connaître à cette époque de l'année. Avec, alors, regardez bien, dans les régions de l'ouest et du sud-ouest, beaucoup de pluie et de la neige en montagne. Sur les Pyrénées, sur le Massif central, on attend plusieurs centimètres au cours de ces prochaines heures. Dans les autres régions, on conservera un ciel très nuageux et puis parfois, par miracle, on aura une petite éclaircie près de la Manche. À coup sûr quand même, sur les Alpes, ça devrait aller un petit peu mieux. Le vent soufflera fort, notamment au pied des Pyrénées. Et puis côté température, ça reste froid. On sera entre 3 et 6 degrés seulement dans la moitié nord. C'est 2-3 degrés en dessous des moyennes de saison, 9 à 11 degrés dans le sud, jusqu'à 14 en Corse.
La question du jour sur RTL.fr. La police fait-elle tout ce qu'il faut pour arrêter les Black Blocs? Vous êtes 78% à dire non, il y a 13% seulement de oui. On attend vos appels au 32-10. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle, c'est la question de la stratégie qui est posée, évidemment, et on la connaît cette stratégie depuis plus de 50 ans. Tous les gouvernements ont la même. On ne veut pas de blessés sur le terrain. Donc on pourra en parler. C'est une stratégie d'ailleurs qui paraît bonne de ce point de vue-là, mais on pourra en parler notamment avec Sylvain Maillard, qui est député de Paris, porte-parole du groupe de La République en marche. Redoutez-vous une troisième vague? Ce sera une autre question. Après les fêtes de fin d'année, vous l'avez dit, on est à 11 000 cas quotidiens. Est-ce que vous êtes frappé par l'affluence dans les grands magasins, dans les rues? Est-ce qu'il y a du relâchement? Est-ce que vous avez commencé à faire vos courses de Noël? À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Eh ben parlons-en justement des courses de Noël, puisque le Père Noël a visiblement profité du Black Friday. On a les premiers chiffres prometteurs des transactions de cartes bleues. Martial You, mais il y a quand même toujours une méfiance à dépenser dans les petits commerces.
Et oui, les ventes du Black Friday sur Internet ont augmenté de 20% par rapport à l'année dernière. Ça veut dire que ça va rester le plus gros week-end de vente de cette année. En revanche, dans les boutiques, on fait grise mine, puisque selon le groupement des cartes bancaires, eh bien les achats ont diminué de 5% au cours du week-end. Il y avait la peur d'aller dans les magasins, bien sûr, à cause du Covid, mais surtout, les boutiques physiques ont fait moins de rabais que les autres cette année, parce qu'il fallait reconstituer la trésorerie, bien sûr, après les semaines de confinement. Les consommateurs, qui sont chasseurs de bonnes affaires, se sont donc rabattus sur le net, où les géants du e-commerce avaient, eux, multiplié les opérations ce vendredi, après avoir accepté, vous vous rappelez, de repousser l'événement d'une semaine. L'an dernier, le Black Friday avait généré 6 milliards de chiffres d'affaires en un week-end. On devrait donc être au-delà cette année encore, sans doute autour de 7 milliards. En 6 ans depuis son arrivée, l'événement a vu ses ventes progresser de 500%.
Martial You, impressionnant. À quoi ressemblera vraiment notre réveillon de Noël dans 17 jours? Pour l'instant, la jauge est à 6 adultes à table et on n'aimerait pas en arriver à ce qui se passe au Canada. Le premier ministre de la province de Manitoba vient de supplier en larmes ses concitoyens de ne pas se retrouver pour Noël.
Je suis celui qui va vous voler votre Noël pour vous protéger. Parce que c'est ce que vous devez faire maintenant. Vous n'avez pas besoin de m'aimer. J'espère que d'ici quelques années, vous pourrez me respecter pour avoir eu le courage de vous dire la vérité. Restez en sécurité, protégez-vous les uns les autres, aimez-vous, prenez soin de vous. Il y a tellement de façons de le montrer, mais ne vous réunissez pas pour Noël.
Je suis le type qui vous vole Noël. Quelle phrase. Ici, l'épidémie reflue, certes, mais la baisse semble ralentir. La France a enregistré 11 022 cas de nouvelles contaminations en 24 heures. On est largement au-dessus de l'objectif des 5 000 cas fixé par le gouvernement pour lever les mesures de confinement le 15 décembre. Alors, comment l'épidémie va-t-elle évoluer dans les prochains jours? Nous sommes avec le fondateur du site Covid Tracker, Guillaume Rosier. Bonjour.
Bonjour.
Votre site permet de suivre l'épidémie en temps réel en France et dans le monde. Est-ce que dans notre pays, il y a des départements ou des villes dont les chiffres vous inquiètent en ce moment?
Oui, alors aujourd'hui, on a environ 9 départements dans lesquels la situation empire en 7 jours. C'est-à-dire que dans ces 9 départements, on a aujourd'hui plus de cas qu'il y a une semaine et plus de personnes admises à l'hôpital qu'il y a une semaine. Et on a aussi plusieurs métropoles avec qui ont des signaux qui ne sont pas rassurants, comme par exemple la métropole de Dijon, où le nombre de cas, donc l'incidence, augmente depuis quelques jours. Donc il va falloir surveiller cette situation de très près, surtout en vue des fêtes de fin d'année.
Mmh. Est-ce que vous pensez que la réouverture des magasins, les courses de Noël, sont à l'origine de ces contaminations qui restent très hautes ?
A priori, c'est encore un peu tôt pour voir les effets de l'aménagement du confinement du 28 novembre. On attend plutôt les effets de cet aménagement dans les prochains jours. Là, c'est encore un peu tôt, ce qui n'est d'ailleurs pas rassurant du coup pour les prochains jours, puisque les données risquent de monter. Mais il y a aussi des données à mettre en parallèle qui sont très intéressantes, qui proviennent de Google et qui nous montrent le déplacement des personnes en France. Et selon ces données de Google, les Français ont commencé à plus se déplacer à partir de la mi-novembre. Et donc, ça pourrait être à cause de ça que les chiffres sont actuellement un peu moins bons qu'espérés.
Donc, ils se seraient déjà un peu trop déconfinés, c'est ça ?
C'est ça, on observe deux paliers. Un palier à partir du 15-16 novembre où les personnes ont commencé à plus se déplacer et un deuxième palier autour du 28-29 novembre qui, lui, est la conséquence directe de l'aménagement du confinement.
Mmh. Il y a quand même des améliorations sur le nombre de patients en réanimation.
Oui, tout à fait. Le nombre de personnes en réanimation diminue et il diminue avec un bon rythme qui est assez constant. Donc on pense qu'on va, avec assez de confiance, on pense qu'on va atteindre l'objectif de réanimation au 15 décembre qui est de 3000 personnes en réanimation. Je pense qu'on sera à peu près à 2600, 2700 à ce moment-là si l'épidémie évolue de la même manière dans les prochains jours qu'elle a évolué ces derniers jours. Par contre, on a un nombre d'admissions à l'hôpital qui commence à se stabiliser, c'est-à-dire qu'il baisse moins vite qu'il y ait une semaine ou deux. Et donc cet indicateur est assez préoccupant et je vais le suivre de très près dans les prochains jours.
Bon, pour être clair, on a 8 jours pour retomber à 5000 contaminations par jour. Est-ce que, à votre avis, c'est envisageable ?
C'est très compliqué. Alors bien sûr, dans cette épidémie, on ne peut jamais prédire ce qu'il va se passer. Par contre, on peut faire des projections en partant du principe que l'épidémie évolue à l'avenir de la même manière qu'elle a évolué ces derniers jours, ce qui n'est probablement pas vrai, surtout en ce moment, car les comportements vont évoluer à l'avenir. Mais donc, si on fait ces projections, on serait à au moins 6500, voire 7000, voire 8000 cas au 15 décembre. Donc, l'objectif ne serait pas atteint, surtout qu'actuellement, on n'inclut pas les tests rapides dans les cas qu'on comptabilise, et ça devrait être le cas dans les prochains jours. Santé publique France devrait intégrer les tests rapides dans les cas, et ça augmenterait jusqu'à 16% le nombre de cas. Donc on pourrait avoir 7000, 8000 cas au 15 décembre.
Donc on serait déjà au moins à 6500, vous dites, donc on ne sera pas aux 5000. Donc là, évidemment, ce sera une décision politique de lever ce confinement ou pas. Merci beaucoup pour tous ces chiffres et pour votre analyse. Merci Guillaume Rosier, fondateur du site Covid Tracker. Les assureurs priaient de faire un geste pour les entreprises les plus pénalisées par la crise. Un accord vient d'être trouvé finalement ce matin à Bercy. Ils vont notamment geler les primes d'assurance des autres hôtelier-restaurateur Anaïs Bouissou.
Oui, pour 2021, pas d'augmentation de cotisation pour les assurances multirisques des hôteliers, des cafés, des restaurants. Ils n'auront pas à payer les conséquences de la crise. Ce gel des cotisations a même été élargi au secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport et de la culture. Les assurances se sont engagées à ne pas augmenter leurs tarifs pour toutes les entreprises de ces secteurs jusqu'à 250 salariés. Ça, c'est l'engagement numéro un. Deuxième engagement, une assistance sera offerte gratuitement aux chefs d'entreprise et aux salariés des secteurs les plus touchés par la crise, avec ce qu'on appelle une indemnité de convalescence, jusqu'à 3000 euros pour ceux qui ont été malades du Covid pour compenser les pertes, ainsi que des services de livraison de repas à domicile, voire de garde d'enfants quand c'est nécessaire. Enfin, le troisième engagement concerne les litiges. Vous savez qu'il y en a eu beaucoup entre les restaurateurs et les assureurs ces derniers temps. Une médiation va être déployée entre les entreprises et les assurances pour limiter au maximum les contentieux. Pour le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, c'est un bon accord avec un vrai effort des assureurs.
J'espère que nous pourrons, avec cet accord, tourner la page des conflits entre les uns et les autres et entrer dans cette voie de la solidarité qui est la seule qui nous permettra collectivement de sortir de la crise économique.
Pour la suite, une fois l'urgence passée, il y aura bien la mise en place d'une assurance pandémie adaptée à une future crise, mais uniquement sur la base du volontariat. les entreprises ne seront pas obligées d'y souscrire.
Ah, merci Anaïs. Cette fois, c'est officiel. Les réseaux bancaires de la Société Générale et du Crédit du Nord vont fusionner pour créer une nouvelle banque forte de 10 millions de clients. 600 agences devraient fermer. Le groupe assure qu'il n'y aura pas de départ contraint, mais la CFDT du Crédit du Nord estime que ça pourrait engendrer la suppression de 3 000 à 5 000 emplois. Le groupe veut anticiper le comportement des clients qui recourent de plus en plus aux services en ligne. La prime de Noël sera versée les 15 et 16 décembre à 2,5 millions de ménages qui bénéficient des minima sociaux. 152 euros pour une personne seule, 228 pour un foyer de deux personnes. Un montant inchangé depuis 2009. Dans un instant, un début de réquisitoire émouvant au procès des attentats de janvier 2015.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
C'est le début du réquisitoire au procès des attentats de janvier 2015 et il est déjà très émouvant. Dans son préambule, l'avocate générale a eu des mots très personnels. Elle était de permanence le jour des attentats de Charlie Hebdo. Elle s'était rendue sur place. Il y a des procès, plus que d'autres, a-t-elle dit, qui font trembler la voix, qui font que le cœur se serre. Cindy Hubert, elle a raconté avec des mots très choisis comment notre vie à tous a changé depuis ce 7 janvier.
Oui, la magistrate a encore en mémoire une foule d'images, un kaléidoscope fou, cet amoncellement de corps dans cette salle de rédaction si petite, ce massage cardiaque réalisé à même le sol sur le policier Ahmed Merabet, des images rétiniennes que le cerveau n'arrive pas à supprimer, cette course contre la mort pendant 3 jours. Hamedi Coulibaly et les frères Kouachi ont volé notre bien le plus précieux, la sécurité, souligne la magistrate. Chacun part désormais le matin sans savoir s'il rentrera le soir. L'avocate générale l'avoue sans détour, ce procès la marquera à vie. Bien heureux, ce masque que je porte qui a parfois caché des larmes. Mais si l'émotion est présente, elle doit se taire une fois qu'on enfile sa robe de magistrat. Ma mission, c'est de poursuivre ce procès jusqu'au bout. Les mains dans le cambouis, les mains dans le sang, les mains dans le droit. Les deux avocats généraux ont un jour et demi pour démontrer que chaque accusé a sa place dans le box, qu'ils ont tous participé d'une manière ou d'une autre à ces attentats. Sans eux, insiste l'avocate générale, Hamedi Coulibaly et les frères Kouachi n'étaient rien, rien que des marionnettes aux mains vides.
Cindy Hubert au tribunal de Paris pour RTL. Le terroriste qui avait exécuté le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty en octobre a été enterré hier en Tchétchénie, la République russe dont il était originaire. D'après des images diffusées sur Telegram, il y avait plus de 200 personnes. Les accès au village avaient été bloqués par les autorités. C'est mercredi que sera examiné en Conseil des ministres le projet de loi contre les séparatismes qui a notamment été durci après l'attentat contre Samuel Paty. Et on sent que l'exécutif démine le terrain. Il s'agit du projet de loi, je cite, visant à renforcer les principes républicains. Et dans son intitulé, il n'y a donc ni le mot islam, ni le mot séparatisme, ce qui au fond est assez révélateur, William Galibert.
Oui, voilà, cacher ces mots que je ne saurais voir, la volonté de montrer que ce texte ne se limite pas à l'islamisme radical. Bon, ça n'empêchera pas les débats inflammables. Il y a par exemple l'interdiction de l'enseignement à domicile. Le président veut une scolarisation obligatoire à partir de 3 ans. Le Conseil d'État doute de la légalité de cette mesure et lui a déjà suggéré de revoir sa copie. Alors le ministère de l'Éducation est en train d'allonger la liste des exceptions pour les enfants malades, pour les sportifs, pour les parents qui présenteront des projets très précis. Mais ça risque de ne pas suffire à faire retomber les colères. Et puis il y a aussi cette charte de valeurs que les associations devront signer pour avoir des subventions. Là, les réunions vont se multiplier pour que le texte ne donne pas l'impression de tomber du ciel. Discuter, concerter, espérer mener des discussions apaisées. En clair, tout ce qui a été complètement raté avec une autre loi, celle sur la sécurité globale ces dernières semaines.
Décryptage William Galibert. Les fouilles ont repris dans le parc du château du Sautou dans les Ardennes pour essayer de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, disparue en 2003. Le tueur en série Michel Fourniret avait reconnu avoir tué l'enfant et avait indiqué un périmètre où le corps pourrait se trouver. Sébastien Rouxel, vous êtes sur place à Donchéry pour RTL.
Oui, cela fait 3 heures environ que les fouilles ont commencé dans la zone indiquée fin octobre par Michel Fourniret, un périmètre relativement précis parmi les immenses sapins qui entourent son ancienne propriété vaste de 15 hectares. Depuis ce matin, une vingtaine de véhicules ont remonté le chemin boueux qui mène à ce manoir aux deux tourelles pointues. À leur bord, les chauffeurs de 2 pelleteuses mécaniques, des enquêteurs de la section de recherche de Dijon, des techniciens de la gendarmerie et même un archéologue, car la végétation a changé depuis 2003, ce qui rend la tâche encore plus ardue. La juge en charge de l'enquête. Sabine Kéris est elle aussi sur place, elle le sait. Les indications de Michel Fourniret sont à prendre avec précaution. Sa mémoire est souvent défaillante et il aime jouer avec les enquêteurs. C'est pour cela qu'elle a tenté vendredi dernier d'obtenir plus de précisions auprès de Monique Olivier, l'ex-compagne du tueur en série. Aucun des deux n'est d'ailleurs présent aujourd'hui. Cette piste, elle reste néanmoins sérieuse aux yeux des enquêteurs. Deux victimes de l'ogre des Ardennes ont déjà été retrouvées dans cette forêt. La famille d'Estelle Mouzin espère enfin retrouver le corps de la fillette et mettre un terme à ce douloureux mystère qui dure depuis près de 18 ans.
Sébastien Rouxel. Dans un instant, on regarde de près le mercure du thermomètre car le mois de novembre a été le plus chaud jamais enregistré sur la planète.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Novembre 2020 aura été le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète et cette année se rapproche du record de 2016. Des températures particulièrement élevées en Sibérie, sur l'océan Arctique, une partie de l'Europe du Nord ou encore aux États-Unis. Sur les 12 derniers mois, on est à 1,28 degré au-dessus des températures de l'ère pré-industrielle, d'après les chiffres du service européen Copernicus qui enregistre les données sur le changement climatique. Et cette tendance va se poursuivre, nous dit le climatologue.
En fait, on est en train de battre des records. On émet des gaz à effet de serre qui se stockent dans l'atmosphère. Tant qu'on ne sera pas revenu à ce qu'on appelle la neutralité carbone, on aura toujours un réchauffement qui continuera. Cette neutralité carbone, elle est espérée en 2050. Donc c'est quelque chose de pratiquement inéluctable maintenant. On va de toute façon, dans les prochaines décennies, vers un réchauffement continu. Il y aura des conséquences partout, parce que c'est la faune, c'est la flore qui souffre. Il y a le relèvement du niveau de la mer, la fonte des glaces arctiques va avoir un impact un peu partout sur la planète. Les zones littorales françaises seront menacées. Ça veut dire que la Camargue, ça veut dire le golfe du Morbihan. Enfin, toutes ces zones-là sont des zones qui seront menacées. On n'en cite que quelques-unes. Mais ça veut dire que l'effort qu'on aura pour vivre sur cette nouvelle planète sera très important. On doit absolument essayer d'anticiper ce qui va venir dans le futur.
Le climatologue Hervé Le Treut avec Agathe Landais. Le « en même temps » d'Emmanuel Macron appliqué à la diplomatie. Il reçoit son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sissi en grande pompe pour parler terrorisme ou encore de la situation en Libye, mais aussi pour évoquer les droits de l'homme, puisqu'en Égypte, il y a plus de 60 000 détenus d'opinion. Les deux hommes ont eu un tête-à-tête ce matin, Brice Dugénie.
Oui, un entretien au cours duquel les deux hommes ont échangé sur cette question épineuse des droits de l'homme à plusieurs reprises. Par le passé, Emmanuel Macron et le président Sissi ont exposé publiquement leur divergence de point de vue sur cette question. Et plusieurs fois, le président Sissi a montré un certain agacement sur la position française. Mais pour la France, l'Égypte est un partenaire politique, militaire important dans cette région du monde où la Libye, le conflit israélo-palestinien, le Sahel ou encore le Yémen sont des sources d'instabilité. Alors au nom de ce partenariat et de cette lutte contre le terrorisme, eh bien le président Sissi a droit aux honneurs, la garde républicaine à cheval, les entretiens avec le président de la République, le premier ministre, la ministre des armées et les présidents des deux assemblées. D'ailleurs, sur le passage du cortège d'Abdel Fattah al-Sissi, une banderole a été déployée tout à l'heure appelant à la liberté d'expression pour les journalistes en Égypte, car pour les organisations non gouvernementales, la France devrait conditionner sa vente d'armes et d'équipements militaires à l'Égypte à cette garantie de liberté.
Enfin, un arrêté municipal sur mesure. Le maire de Pleumeur dans le Morbihan vient de prendre des mesures spéciales Père Noël pour les 24 et 25 décembre afin que la distribution des cadeaux se passe dans de bonnes conditions. Mais c'est aussi et surtout pour faire sourire ses administrés. Le maire Ronan Loas n'a pas oublié l'esprit de Noël.
Il va permettre en fait déjà dans un premier temps Père Noël de circuler comme bon lui semble, de se garer partout dans Pleumeur dans la nuit de Noël et ensuite de demander aux enfants d'être bien sages et pour faciliter surtout le travail du Père Noël quoi, qui a quand même beaucoup de travail. Un peu ironique sur la situation qu'on est un peu en train de vivre, sur ces confinements, déconfinements. Et pour une fois qu'on a des réglementations qui créent un peu de plaisir et un peu de liberté, je crois qu'il faut les mettre en avant. L'esprit, c'est d'être déjà un peu positif dans cette période qui était un peu sombre. Moi, le but, c'était de lancer un peu l'esprit de Noël, l'esprit de fête à Pleumeur. Et aussi pour lancer notre petite boîte aux lettres au Père Noël. Et je pense qu'en ce moment, tout est compliqué, surtout pour le Père Noël. Et ses lutins, naturellement, parce qu'il ne bosse pas tout seul.
Voilà, propos recueillis par Nicolas Bobby. Le Père Noël sera donc déconfiné en Pleumeur dans le Morbihan, qu'on se le dise. Et alors, Pascal Pro, c'est dans 5 minutes que vous dialoguez avec les auditeurs. Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui ?
Je suis celui qui vient vous voler Noël.
C'est extraordinaire, cette phrase.
C'est formidable.
Il y a quand même un certain courage politique à la prononcer, celle-là.
Comme vous dites, alors, c'est le premier ministre
d'une province du Canada.
Donc... C'est étonnant. Donc, est-ce qu'il a raison ou pas? C'est toujours la même question. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont très très peur de cette situation. Il leur dit, ne sortez pas, ne vous réunissez pas, ne voyez personne et restez entre vous. Donc ça nous interpelle forcément. Ça sera un des sujets sur lesquels on pourra réagir. L'autre sujet, bien sûr, c'est les Black Blocs. On a le sentiment que de samedi en samedi, c'est toujours la même chose. Et cette question, est-ce que la police fait le maximum? Mais la police, elle est aux ordres, et les ordres, c'est la politique. Et on sait bien que la stratégie, c'est de ne pas charger les Black Blocs, parce qu'il y a possibilité de blesser, a fortiori, il pourrait y avoir même des morts. Donc est-ce que cette stratégie, est-ce que vous avez envie de parler de cette stratégie? Pourquoi pas de la remettre en cause, d'ailleurs? Et bien au 3210, nous pourrons ensemble, entre 13h et 14h30, mener le débat.
Louis Baudin, la météo, aujourd'hui, c'est très hivernal.
Oui, c'est très hivernal, j'ai tous les ingrédients. Alors déjà, dans l'ouest, en gros, on trace un trait entre le sud du Cotentin, la Saint-Malo et Marseille. Ben voilà, au sud de cette limite, donc près de l'Atlantique, de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine, ça va rester très nuageux, humide, avec de la pluie en plaine, mais de la neige en montagne. Ça sera le cas sur les Pyrénées et sur le Massif central. Dans les autres régions, donc dans le nord et l'est, on aura beaucoup de grisaille et de temps en temps une éclaircie. J'en vois un petit peu là sur le nord du Cotentin, un peu autour du Massif central. Pas sûr que ça dure tout l'après-midi. Et puis quand même un peu plus de soleil du côté des Alpes. Il restera des averses quand même du côté de la Corse. Le vent soufflera assez fort au pied des Pyrénées. Puis les températures hivernales, 3 à 6 degrés seulement dans la moitié nord, 9 à 11 dans le sud et jusqu'à 12, 13 degrés quand même du côté de la Corse.
Bon, et demain, pareil, il y en aura aussi pour tout le monde.
Pareil, avec effectivement de la grisaille, des brouillards le matin, de la neige à basse altitude sur les Pyrénées, le Massif central. En cours d'après-midi, peut-être quelques éclaircies près de la Manche, ça n'empêchera pas quelques averses. Même chose près de l'Atlantique. Et puis dans les autres régions, beaucoup de nuages, de la pluie, un peu de neige en montagne, des 500 ou 600 mètres sur tous les massifs, entre les Pyrénées et les Alpes notamment. De l'activité également sur les bords de la Méditerranée. Toujours du vent fort près des Pyrénées. Et puis les températures sans grand changement. Des gelées quasiment partout demain matin. Et l'après-midi, 3 à 6, 7 degrés dans la moitié nord et 7 à 11 dans le sud.
Merci Louis.
Il est 13h pile.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Est-ce que vous avez le sentiment que la police fait le maximum pour arrêter les Black Blocs? Bonjour François.
Oui, bonjour Pascal. Eh bien, je dirais que la police fait ce qu'on lui dit de faire, surtout.
Eh bien, nous allons développer dans une seconde. Christelle Rebière pour le rappel des titres.
Les compagnies d'assurance ont finalement accepté de geler les cotisations des contrats multirisques professionnels pour l'année 2021. Ça concerne les entreprises de moins de 250 salariés, de l'hôtellerie-restauration, l'événementiel, le tourisme, le sport et la culture. Le Black Friday a fait bondir le nombre de transactions par carte bancaire de 20% pour les achats en ligne, mais en boutique, on est en dessous de 5% par rapport à l'année dernière. Le salon aéronautique du Bourget, annulé à cause des incertitudes sur la crise sanitaire, il devait se tenir au mois de juin 2021. C'est aussi symbolique de la crise que traverse le secteur aérien. D'ailleurs, l'État va injecter 4 à 5 milliards d'euros dans le capital d'Air France au printemps, comme vous le révélait RTL ce matin. Nicolas Sarkozy à la barre cet après-midi au tribunal de Paris. L'ancien président est interrogé sur les faits dans l'affaire dite des écoutes. Il a promis de s'expliquer et de répondre à toutes les questions au nom de la vérité.
Les auditeurs ont la parole.